Eh bien bonjour, nous voici de retour sur Radio Campus en compagnie de Pascaline, de Tour de Bulle, Ulcère, auteur de bande dessinée.
Bonjour.
Et Mickaël Jérôme, toi tu es plutôt éditeur. Hein, si...
Ou oui, ou...
Artisan
ouais, on va dire, je sais pas, bonjour. Ouais. Ça vient pas.
Donc ça... là on va parler d'un sujet assez sérieux, assez important pour le moment, la rémunération des auteurs. Voilà, bon, bah, je vais laisser la parole à Pascaline, tu vas...
Bonjour. Du coup, oui, on a eu la volonté de parler de la rémunération des auteurs, qui est un sujet très actuel dans le milieu de la BD, notamment depuis le Festival Angoulême janvier 2018, où il y a des choses qui sont un peu sorties, et quelques actualités dont on va vous reparler dans l'année. La question, c'est la professionnalisation du secteur, la rémunération, qui rémunère, et comment aussi nous, en tant que festival bénévole, on peut accompagner cette transformation du secteur professionnel.
On peut peut-être commencer un peu par expliquer un peu aux gens comment les auteurs sont rémunérés.
Quelle est la pratique actuelle, oui. Comment ça se passe actuellement, oui. C'est vrai que c'est...
Il faut savoir que globalement pour les auteurs, les revenus peuvent être multiples, puisqu'il y a les livres, mais voilà, il y a un peu aussi tout un tas d'activités périphériques. Qui peuvent être de la presse, qui peuvent être éventuellement des animations, je sais pas, des ateliers bande dessinée, des choses comme ça. Mais on va peut-être se focaliser principalement sur les revenus livres. Globalement, comment ça marche, même si c'est pas le, il y a pas un seul schéma, mais on va dire le schéma principal, généralement, c'est d'avoir des avances sur droit. C'est-à-dire que pendant la réalisation d'un livre, l'éditeur va verser de l'argent aux auteurs. Mais cet argent, en fait, est une avance sur les futurs droits d'auteur, c'est-à-dire les droits d'auteur qui seront dégagés par la vente des livres. Ce qui veut dire que quand donc les auteurs touchent une somme, admettons, je sais pas, 15 000 euros par exemple, une fois que le livre est en vente, les auteurs vont toucher, au moins pour le secteur de la bande dessinée, c'est moins pour le secteur du livre jeunesse par exemple, et alors après le roman, tout ça, c'est encore autre chose. Mais pour la bande dessinée, les auteurs vont toucher 8% du prix de vente hors taxe du livre dans les librairies. Mais cet argent, en fait, ils ne le touchent pas. Cet argent va petit à petit rembourser l'avance donc les 15 000 euros que l'éditeur leur a consenti pendant la réalisation du livre. Ce qui fait que si on prend par exemple un livre à 20 euros, 8%, faut compter, je crois, 75 centimes à peu près. À se diviser en deux, dans le nombre d'auteurs.
À diviser par le nombre d'auteurs.
C'est ça. Si vous avez un scénariste, un dessinateur, ça veut dire que chacun des auteurs touchera que 4% au lieu des 8. Voilà. Et donc en gros, ces 75 centimes de chaque livre mis bout à bout devront rembourser les 15 000 euros que l'auteur a touché s'il est tout seul. Donc autant dire que ça fait beaucoup d'albums à vendre avant de retoucher un seul centime sur les livres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les revenus des auteurs sur les livres sont principalement des avances, en fait, pour la plupart des auteurs, le plus gros. Quoi.
Alors après, moi je me mets à la place d'un auditeur, 15 000 euros comme ça paraît important, par exemple, mais il faut remettre en perspective du temps de travail.
Non seulement la durée de travail, c'est-à-dire que, bon, effectivement, il faut compter, c'est variable selon les auteurs, mais un album de bande dessinée tel qu'on le trouve habituellement en librairie, il faut compter entre 6 mois et un an de travail à peu près, en moyenne, hein. Évidemment, il y a des auteurs qui vont beaucoup plus vite, d'autres qui vont moins vite. Mais surtout, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces 15 000 euros, en fait, c'est quasiment ce qu'on pourrait appeler du brut, quoi. C'est-à-dire que dessus, il y a aussi des cotisations à enlever. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de congés payés, tout ça. Donc, en fait, tous les à côté que les salariés ont, que les employeurs payent et qui amènent ensuite une certaine couverture sociale, des choses comme ça, les auteurs ne l'ont pas. Alors on a quand même de la sécu, mais c'est...
Vous n'avez pas la retraite, vous n'avez pas...
Alors on a de la retraite aussi, mais du coup, voilà, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, effectivement, voilà, en fait, sur ces 15 000 euros, c'est...
Ça se rapproche presque un peu d'un statut semi-libéral où, en fait, tu ne bosses pas, tu n'as rien.
Totalement, oui. Ouais.
C'est presque ça. Des auto-entrepreneurs, finalement. Enfin,
oui, oui. Ce qui fait que globalement, si vous prenez cette somme-là et que vous commencez à enlever des charges, en fait, vous apercevez que ça fait vraiment soit un tout petit SMIC, et encore, pour de vrai, on pourra y revenir. La plupart du temps, en fait, on est sur des gens qui travaillent et qui sont en dessous du seuil de pauvreté, clairement.
Oui. Et alors, du coup, on avait la volonté d'avoir justement une parole d'éditeur, alors qui n'est pas un éditeur comme on pourrait avoir, je ne sais pas, chez...
comme les autres, c'est gentil.
Bah, effectivement, tu n'es pas comme les autres, Mickaël.
Vous n'êtes pas sur la même échelle économique.
On n'est pas sur les mêmes échelles économiques, voilà. Et du coup, ce sera intéressant, toi, de...
Tu n'es pas forcément sur le même modèle, en plus.
Non, et en fait...
Petite maison d'édition, déjà.
Oui, bah, j'ai petite pièce dans la maison, et puis dans le préau pour mettre le stock. Mais non, alors en fait, c'est... Je pense qu'il y a des façons aussi de voir les choses. Moi, j'entrevois pas la relation auteur-éditeur comme une relation qu'on pourrait l'avoir dans une philosophie dite de travail. Pour moi, on n'est pas sur employeur-employé, il n'y a pas de choses comme ça. Moi, je travaille en équipe, on est collègues, on collabore pour réussir à mener le projet d'un bout à l'autre. Et tant et si bien que, par exemple, sur un livre, moi, la priorité, déjà dans un premier temps, alors, pour aller dans le sens de ce que vous me disiez au départ, moi, je continue toujours, j'ai toujours mon activité professionnelle à côté. On va dire que je dois avoir des horaires pour dormir, mais je ne sais pas où ils sont, mais apparemment, ça doit être quelque part. Mais en tout cas, le but, c'est effectivement d'avoir le temps que moi, je mets, c'est l'énergie que l'auteur n'a pas à mettre en dehors de son activité principale, qui est celle de son travail. Et pour moi, l'essentiel, c'est la manière dont le travail doit être fait, doit être rémunéré déjà, en premier lieu, pour l'auteur. C'est pas le premier fusible qui doit prendre. Enfin, s'il y a un problème, c'est pas le premier fusible. Donc, le schéma économique que j'utilise aujourd'hui s'appelle le préfinancement ou le financement participatif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer, établir tous les éléments qui vont amener à la création du livre du début, donc l'auteur, jusqu'au bout. Ça demande un investissement de temps plus ou moins important au départ de l'auteur et plus ou moins aussi important de ma part. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est que si je crois dans le projet, bah, c'est qu'il existe. Donc, j'ai aucune volonté de me dire que je vais passer 3 mois complets à réfléchir comme un taré en me disant quelle est la façon la plus adéquate de présenter un projet aux lecteurs, qui sont finalement les seuls décideurs de la pérennité, que ce soit d'un éditeur ou de l'auteur, hein, tout simplement. Donc ce temps-là, pour moi, est ultra important dans le sens où si moi je ne fais pas bien la chose, bah, l'auteur derrière va en pâtir. Et moi, comme je ne travaille pas en employeur-employé, mais en collègue, ça ne le fait pas. Donc quand, par exemple, je propose un projet en financement participatif, je dis toujours, je fais le minimum, la rentabilité de l'auteur doit être déjà intégrée dedans. Moi, je ne me compte pas dedans, je m'en fous, je n'ai jamais pris un euro jusqu'ici. Même pas pour boire un coup. Voilà.
Pour être clair, en gros,
d'eau, s'il vous plaît.
Il y a une grosse partie de l'argent que tu arrives à récupérer sur les financements participatifs qui vont à l'artiste.
Aujourd'hui, ça va à l'auteur et à l'impression. Voilà en gros comment ça se fait. C'est moi qui m'occupe des colis, c'est moi qui m'occupe de tout ça. C'est du temps de gagner, c'est pas à l'auteur d'envoyer un colis. Enfin, je veux dire, il a autre chose à faire. Surtout quand on est dans une phase de création, on est OK, bah, c'est bien, on a fait une campagne, on a monopolisé son temps, peut-être même mutuellement. Il y a des auteurs qui vont s'investir plus ou moins dans ces étapes-là. Mais l'idée, c'est de se dire que plus le projet va être capable de toucher de lecteurs ou va avoir un succès, on va dire, pécunier important ou d'exemplaires prévendus, moi, ça me semble logique. Après, voilà, mais plus en tout cas, le succès doit être partagé à ce niveau-là. Il n'y a pas de... bon, bah, c'est bien, on a fait 500 000 euros. Alors, on avait dit que tu prendrais 3 000 euros pour ça, 4 000... ça s'arrête, c'est bon. Non, ça ne marche pas comme ça. Enfin, pour moi, ça ne peut pas marcher comme ça.
Alors, on reprécise hein, que c'est un modèle particulier et
oui,
exemplaire.
Oui, c'est pas du tout le modèle général dans l'édition.
Ouais, ça ne l'est pas du tout, effectivement.
Et puis, c'est peut-être un modèle qui n'est viable qu'à une petite échelle, d'ailleurs. C'est peut-être pas...
Honnêtement, ça dépend. C'est-à-dire que... alors, il y a des contre-exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, par exemple, beaucoup... d'auteurs, alors je prends en fait les exemples d'un marché étranger, avec par exemple des auteurs qui ont bien fonctionné dans les années 80-90 aux États-Unis, aujourd'hui se retournent quasiment exclusivement sur des formules comme ça, parce qu'ils se retrouvent finalement à être mieux rémunérés en ayant des plus petits tirages, puisque oui. L'un des gros défauts aussi de l'édition, c'est multiplier un tirage énorme en se disant bah, on va en faire 10 000, 20 000, 30 000.
Oui, mais on dilue...
On dilue finalement le potentiel, etc. C'est vrai
que la tendance, elle est plutôt à resserrer vers des niches, en fait, pour essayer de toucher le public vraiment ciblé. Plutôt que d'arroser.
Ou d'essayer d'élargir peut-être un petit peu la cible des lecteurs. C'est-à-dire qu'un lecteur qui peut être destiné à l'origine qu'à suivre un comics, mais lui faire comprendre qu'on est dans une sphère proche là, avec ce titre, ça, je pense que c'est le métier de l'éditeur de lui dire tu sais, cet auteur, tu le connais pas.
Du libraire aussi.
Et du libraire, bien sûr. Effectivement. Et là, c'est dans le cadre, par exemple, moi, de la structure de Comics Initiative, la libraire, c'est ce que j'appelle la phase 2. C'est-à-dire que la première phase, c'est d'abord. Avec les lecteurs et l'auteur, créer ce projet-là et ensuite, dans une seconde phase, pouvoir bien le présenter au libraire qui puisse comprendre quelle était l'intention et
Comment il va le présenter au lecteur.
C'est ça. Après,
mais déjà, avec le préfinancement, tu sais déjà, contrairement à un mode d'édition classique où on édite un certain nombre d'exemplaires sans être sûr que tout va partir, toi, tu sais déjà
que
tu vois un public.
Pas forcément. Il y a des titres qui peuvent se vendre énormément en préfinancement et n'avoir aucun écho en librairie. Et inversement, des titres qui ne vont pas du tout fonctionner en préfinancement et au contraire, dans une seconde phase, fonctionner en librairie. Le coût du tirage, c'est juste un moyen économique de noyer un peu plus les premiers... pour moi, c'est une manière de noyer les auteurs, en fait, en partie. Les éditeurs aussi. C'est-à-dire que effectivement, le coût de l'avance de droit, le coût de remboursement, on va dire, plus on en distribue, plus on en fabrique, mieux ça va se passer. Sauf qu'indirectement, le distributeur, c'est juste faire son beurre. C'est son métier, on ne peut pas lui en vouloir. Mais
oui, c'est après.
Parce que là, on commence à rentrer dans des termes techniques que nos auditeurs ne connaissent pas forcément, voyez-vous. En gros, au niveau de ce qu'on appelle la chaîne du livre, les personnes qui vont récupérer un peu de financement, vous m'arrêtez si je me trompe, sur la vente d'un album, on a donc l'auteur sur un petit 8% en BD.
Oui, par l'intermédiaire de l'éditeur.
Après, il y a l'éditeur qui récupère également une part de la vente, le libraire, évidemment.
Il y a le distributeur.
Et il y a le distributeur. Et le
diffuseur, distributeur, alors auteur, libraire, distributeur, diffuseur,
éditeur.
Ouais.
Donc ça fait beaucoup de monde sur 20 euros, quoi.
Oui, et surtout ce qui peut paraître, ce qui surtout est assez frappant et qui étonne beaucoup les gens quand on en discute, c'est que ce sont les auteurs qui touchent la part la plus petite sur le livre. Et la part des auteurs est même plus petite que la part TVA, en fait.
C'est vrai.
Ouais, ce qui peut paraître aberrant, et en fait, on en est là. Donc, il y a quand même un souci, je pense, sur cette répartition. Ouais.
Et alors, une des grandes questions du moment, et on en est l'exemple puisqu'on est actuellement sur le festival, c'est la question de la rémunération des temps de dédicace et des temps d'animation des auteurs.
Oui, d'une manière générale, du temps de présence des auteurs en salon, effectivement. Oui.
Donc, on en est où en ce moment sur les politiques littéraires là-dessus, la position des éditeurs. Il y a eu quelques bons mots ces derniers temps.
Ouais, le truc c'est qu'on part d'assez loin. On part d'assez loin puisque en bande dessinée, et d'ailleurs il n'y a que en bande dessinée que ça se voit, il y a une habitude effectivement de la gratuité du geste, de la dédicace. Et d'une manière générale de la présence des auteurs.
Ouais, surtout en France, parce qu'aux États-Unis.
Oui. Je parle de la France.
France et Belgique.
Alors effectivement, les auteurs sont défrayés, c'est-à-dire qu'on nous paye l'hébergement, le transport, le repas, tout ça machin. Mais effectivement, on n'est pas rémunéré pour notre temps de présence, qui est un temps de travail,
C'est de la représentation pour l'album que tu défends, quoi.
C'est justement, je pense, le cœur de la question. En tout cas, moi, ce que j'ai compris dans les grands échanges qu'il y a en ce moment, c'était du genre mais ils sont là, ils font leur promotion, donc on va pas en plus les payer, on vend déjà leur album. C'est une des phrases qu'on entend beaucoup.
C'est bizarre, mais quand Yann Moix est invité dans une émission, on se pose pas la question de savoir s'il est rémunéré.
Comme dans le spectacle vivant ou dans la musique, quand ils viennent jouer ou quand ils viennent faire leur spectacle, ils sont payés. Donc pourquoi un BDiste qui vient faire du dessin, donc son travail, ne serait pas rémunéré?
Moi, je pense que les auteurs sont juste trop gentils.
Totalement. Non, c'est effectivement, quand je disais on part de loin, c'est parce qu'effectivement, il y a des habitudes dans le milieu qui sont installées depuis longtemps. Et Et c'est compliqué de remettre ça en question, parce que effectivement, je pense que ça tient aussi un peu au côté solitaire du travail de bande dessinée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent tout seuls chez eux, et pour qui effectivement la sortie festival c'est un moyen aussi d'un peu de sortir de chez soi, de rencontrer son public et tout. Et du coup, il y en a pour qui c'est compliqué de dire bon bah effectivement il faut revoir un peu ce système-là, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur fait un peu déjà une faveur. Sauf qu'il y a un moment, il faut aussi voir que tout ça fait tourner toute une économie quand même, quoi. Les gens viennent dans un salon de bande dessinée pour les dédicaces, les auteurs. Voilà. Faites un salon où il n'y a pas de dédicace, même si vous faites des super expos, des conférences, un truc très qualitatif, malheureusement, je crains que ça soit pas vraiment un franc succès. Donc voilà, et vraiment, il faut prendre conscience du fait que la présence des auteurs sur les salons est le point d'attraction principal des salons. Et en tant que tel, ça doit être valorisé.
Et alors, pour les auditeurs qui l'ignorent encore, l'année 2020 sera l'année de la BD, ça a été annoncé par notre ministre de la Culture.
Et ça, moi
oui, c'est sûr, on en a un.
C'est Jacques Lang.
Et du coup, est-ce que vous pensez de vos places que cette question-là va être un peu mise sur le tapis, et comment vous, par exemple, dans votre expérience, vous pourriez envisager qu'on fasse justement une avancée, comment on pourrait aller vers le mieux et vers cette structuration et puis un financement juste et logique des artistes qui sont présents.
Alors, il se trouve que je fais partie du SNAC, qui est le syndicat des auteurs compositeurs, qui a une branche bande dessinée, donc je fais partie de cette branche là et effectivement c'est une question qui est en cours de discussion. Donc voilà, pour l'instant rien n'est encore statué, mais clairement nous on pousse dans le sens de la rémunération de la présence, de la même manière que la charte des illustrateurs ainsi que les autres organisations, mais principalement la charte, a en son temps poussé pour mettre en place une charte justement concernant les rémunérations de tout ce qui était animation, conférences, voilà. Donc là, on pousse pour essayer d'avoir quelque chose de similaire sur la présence des auteurs lors des salons, quoi.
Oui, non, mais c'est une création cruciale.
Moi, je pose la question, enfin, juste pour essayer d'avancer sur la question débat, etc. Ça me semble compliqué parce qu'en fait, il y a différents types de salons. Et c'est vrai qu'il y a des salons, effectivement, on prend à tour de bulle. À prendre celui d'Angers, etc. C'est vrai que ce sont des passionnés qui prennent du temps, sur leur temps, et qui n'ont pas de professionnalisation sur le salon. Et c'est vrai que on ne sait pas trop. Enfin, moi, je ne sais pas quelle est la solution donnée aujourd'hui aux auteurs, hormis mieux les rémunérer d'emblée, ce qui est mon but, moi. Mais dans la réflexion, c'est de se dire qui doit rémunérer à tel moment pour que ce soit. Et quand je dis ça, c'est légitimement rémunéré, évidemment.
Bien sûr. Oui.
Est-ce que c'est au salon ? Est-ce que c'est à l'éditeur ? Est-ce que c'est au libraire qui distribue les bouquins et qui prend lui forcément aussi ?
De toute façon, hors période de promotion où un éditeur va envoyer des auteurs à tel endroit, conjointement avec les organisateurs. Sinon, non, c'est les organisateurs invitent les auteurs, donc c'est aux organisateurs de trouver le moyen de les rémunérer.
Alors c'est très très intéressant, parce que nous, en tant qu'organisateurs, et c'est là notre place aussi, par exemple, on peut être, alors nous on est, je rappelle, un festival entièrement bénévole, un fonctionnement sur des subventions publiques. Et aujourd'hui, on est confronté, nous, à la question des subventions publiques qui ne veulent pas nous donner d'argent parce qu'on ne rémunère pas assez les auteurs. Je précise qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui sont rémunérés sur toutes les animations sur le festival, mais qui, du coup, ne veulent pas nous donner plus d'argent parce qu'on ne rémunère pas assez les auteurs. Du coup, notre réponse, c'est oui, mais si vous ne nous donnez pas d'argent, on ne peut pas rémunérer plus les auteurs, ça tourne en rond. Et nous, en tant qu'organisateurs, aujourd'hui, on en est là aussi. Donc, effectivement, comment on va sortir ?
Effectivement, il va falloir qu'il y ait des administrativement des choses qui se débloquent, mais ça on espère qu'une fois que ça rentrera déjà un peu dans les esprits, que ça va s'assouplir derrière, mais effectivement je pense qu'il faut que tout le monde prenne conscience qu'aujourd'hui il y a énormément de manifestations qui existent Alors effectivement grâce aux bénévoles ça, mais aussi parce que il y a tout un tas d'auteurs dont c'est le métier, hein, c'est encore une fois il s'agit de travail, voilà, viennent globalement gratuitement faire des prestations, et que effectivement on s'est habitué à ce que ces festivals existent, et c'est bien et c'est chouette, mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui la situation des auteurs est tellement compliquée que c'est même pas une question de la pas du gain, c'est qu'il y en a beaucoup pour qui en fait ça va plus être possible d'aller en salon, et il faut trouver des solutions pour que ça perdure.
Donc je pense qu'on va conclure sur ces mots.
Donc à suivre du coup sur les années à venir, et que chacun prenne sa part pour arriver à la justesse.
Vaste discussion. Voilà.
On pourrait effectivement continuer.
Oui, on pourrait continuer un petit moment. Ouais. Donc là, on va mettre un petit morceau, enfin plutôt long, hein, Metallica, Master of Puppets, avant de passer au sujet suivant.
C'est bien ça.